Alain Johnson, bonjour.
Oui, bonjour.
Un peu triste de se parler pour traiter de ce sujet-là, mais en même temps, il faut le faire. Je pense qu'il faut fournir aux parents qui nous écoutent, aux grands-parents aussi, à tous les adultes signifiants de ces jeunes filles et jeunes garçons, on en parlera bien sûr plus tard, des outils pour mieux protéger nos adolescents. Bon, on parle beaucoup, Alain, des centres jeunesse, là, notamment du côté de Laval. Est-ce que ça se passe, ces disparitions, seulement dans ce contexte-là?
Pardon, non, pas du tout. Je pense que c'est sûr que actuellement, avec les événements, les médias, on a beaucoup parlé des centres jeunesse. C'est sûr qu'un jeune qui se retrouve en centre jeunesse, c'est un jeune qui, garçon ou fille, qui vit des situations difficiles, qui est probablement plus vulnérable à différentes choses. Donc, c'est malheureusement peut-être là, un public facile à cibler pour les gens qui veulent profiter de ces jeunes-là. Mais le phénomène de la fugue ou le phénomène d'abus, je veux dire, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de classe sociale qui sont protégées. C'est pas nécessairement toujours avec des étrangers, des inconnus. Donc, je pense que le phénomène dont on parle aujourd'hui, c'est un phénomène qui, je pense, concerne tous les adultes qui sont en contact avec des jeunes.
Mm-hmm. Donc, pas de profil type chez la jeune fille qui disparaît.
Ben, je vous dirais, c'est sûr, écoutez, dans le fond, qu'est-ce qui va amener une jeune fille ou un jeune garçon à quitter son espace, son environnement, sa famille, son quartier, son groupe d'amis? Dans le fond, c'est un jeune à qui on va offrir quelque chose qui, selon lui ou elle, manque. Alors, par exemple, imaginons une jeune fille à qui on va faire miroiter qu'elle va être une princesse, qu'on va lui donner de l'argent, qu'on va s'occuper d'elle, qu'on va l'aimer. Donc, ça peut venir combler un besoin d'aventure, ça peut venir combler un besoin d'estime de soi. Donc, c'est quelque chose de très attrayant.
Oui.
D'accord. Et à ce moment-là, malheureusement, tout ce qu'on fait de miroiter va passer par-dessus, je dirais, l'espèce de réflexe où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, malheureusement, les défenses, la prudence va tomber.
Oui. Un besoin d'indépendance aussi, Alain, à cette période de l'adolescence où on veut se libérer un peu de nos parents, voler nos propres ailes. Ça peut être assez attrayant, que fait miroiter, entre autres, là, les gangs de rue.
Exactement. Et on peut tous repenser à notre propre adolescence où on a probablement fait certaines expériences, peut-être pas aussi intenses, mais où on a voulu s'affirmer, on a voulu explorer nos limites, on a voulu s'affirmer. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Donc, je dirais, une jeune qui a des activités saines, qui est occupée, qui a un groupe d'amis positif, va expérimenter, va vivre son adolescence, va faire ses expériences, mais dans un cadre sécuritaire. Le danger, évidemment, c'est quand une jeune va tomber sous l'emprise de gens qui, au départ, ne l'exploiteront pas, mais à partir du moment où elle est sous cette emprise-là, bien évidemment, j'aurais la porte de la cage vient de se refermer.
Et ça, j'aimerais ça qu'on démêle tout ça parce que c'est pas évident. On a parlé beaucoup dans les dernières semaines de gangs de rue, de proxénètes. Est-ce que un et l'autre vont ensemble ou pas nécessairement? Et bien sûr, d'une part, avant tout, je pense qu'il faut préciser que toutes les fugues ne sont pas dues à une gang de rue ou un proxénète.
Non, écoutez, je pense qu'on peut parler de beaucoup de jeunes qui vont faire des fugues en réaction, c'est peut-être pas la bonne réaction, mais qui vont réagir à ce qui se passe à la maison et qui vont, dans le fond, c'est une espèce de cri de détresse. Là, on va tout simplement, ayant la difficulté, dans le fond, gérer la crise, la difficulté, les frustrations, les conflits, le jeune va faire cette fugue-là. Je dirais, une gang de rue ou un proxénète, dans le fond, c'est pour moi, ce qui est important, c'est un adulte, un jeune adulte ou un adulte qui va délibérément utiliser son pouvoir pour manipuler un jeune ou une jeune qui est finalement plus impuissant, qui a moins de moyens pour se défendre. Alors, c'est vraiment l'utilisation du pouvoir sur quelqu'un pour lui faire faire ce que, en temps normal, la jeune n'aurait pas nécessairement fait de façon tout à fait consentante.
Oui. L'une des façons de recruter ces jeunes filles-là, ou du moins de les attirer, de prendre contact, c'est beaucoup les réseaux sociaux.
Je pense, oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que dans le fond, les réseaux sociaux, il faut faire attention, hein, parce que les réseaux sociaux, c'est pas juste quelque chose d'épouvantable et de dangereux. Je pense que les jeunes maintenant, je pense que, bon, à une époque, on se rencontrait au dépanneur, on se rencontrait au parc, par la suite, on a passé des heures au téléphone. Donc, il y a toujours eu des espaces, des lieux où les jeunes échangent, se retrouvent. Les jeunes, on a tous eu besoin de sentir qu'on appartenait à un groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, la technologie et le fait que les jeunes ont accès à la technologie facilement, dans le fond, ces liens sociaux-là, ces groupes sociaux-là, ils sont maintenant sur les médias sociaux. Et je pense que c'est très sain. C'est peut-être plus difficile à contrôler. Par contre, pour les adultes, le risque aussi dans, je dirais, l'espace virtuel, que ce soit le web ou que ce soit les médias sociaux, c'est qu'il y a très peu de surveillance. Il n'y a pas d'adultes présents pour s'assurer de la sécurité de ce qui s'y passe. Donc, les jeunes ont accès à la technologie, les jeunes sont sur les médias sociaux, et évidemment, les gens qui veulent exploiter, profiter, trouvent des façons de s'y insérer. Sont très habiles à identifier les jeunes qui sont vulnérables et comment, dans le fond, les accrocher, comment leur faire miroiter leur rêve et après ça, s'en servir.
Tout à l'heure, Alain, vous avez dit quelque chose qui, je pense, demeure la clé pour protéger nos adolescentes, c'est de les garder occupées. Un bon facteur de protection, pas nécessairement toujours facile à faire pour un parent. Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs de protection?
Moi, je vous dirais, écoutez, c'est sûr qu'un jeune qui est actif, un jeune qui se développe, un jeune qui vit des succès, un jeune qui s'implique, qui s'engage, qui est en contact avec d'autres jeunes, qui est en contact avec des adultes positifs, alors que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'engagement, dans la danse, donc un espace où le jeune va se réaliser, mais où le jeune va être en contact avec d'autres jeunes et adultes qui sont positifs et sains, je pense que c'est évidemment excessivement, c'est un très bon facteur de protection.
Mm-hmm.
Un autre facteur de protection, je pense, c'est d'amener un jeune à comprendre qu'il a la possibilité de dire non, de se fier à, je dirais, son instinct naturel. Quand tu es dans une situation où il y a cette voix intérieure qui dit il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose de pas clair, donc de se faire confiance et de poser ses limites. L'autre facteur de protection, c'est d'être capable d'établir avec nos jeunes une relation de confiance où on va, nous comme adultes, être capables d'exprimer nos inquiétudes, mais où le jeune va pouvoir se sentir en sécurité et va pouvoir aussi exprimer ses questions, ses doutes, ses insécurités. Donc, une relation ouverte est un excellent facteur de protection.
Et d'égal à égal.
D'égal, je vous dirais, on sera toujours un entraîneur, on sera toujours un adulte ou un parent, mais de dire au jeune, tu peux me partager ce qui se passe. Je ne monterai pas au plafond. Les fusibles ne sauteront pas. On ne sautera pas tout de suite aux conclusions. On va prendre le temps de regarder ce qui se passe. On va regarder qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que la situation s'améliore. Et si tu as besoin de mon aide, je vais être disponible.
Oui.
Et je dirais peut-être, sûrement le dernier facteur de protection, c'est la prévention. Donc, parler de sexualité, parler des médias sociaux, parler, je dirais, du respect, parler évidemment des risques, hein, puis pas parce qu'on veut faire peur aux jeunes, mais parce que ce sont des réalités. On pourrait se poser la question, hein, si nous, les adultes, on a vu depuis quelques semaines dans les médias, on en a beaucoup parlé, les jeunes sont aussi conscients de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on a posé la question à nos enfants? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis ça? Mm-hmm. Est-ce que ça t'inquiète? Donc, de profiter des occasions spontanément pour ouvrir ces conversations, ces discussions-là, je pense que c'est une très bonne façon de faire de la prévention.
et parler de consentement sexuel, de respect, de limites.
Oui.
On le fait aussi avec les garçons, pas juste jeunes filles.
Oui, tout à fait. Dans le fond, comment... parce que malheureusement, il y a aussi des garçons qui font des filles, il y a aussi des garçons qui sont exploités sexuellement, on en parle un peu moins. Mais parler, dans le fond, de consentement, de relations saines. Et dans une relation saine, c'est d'être capable d'exprimer ce dont j'ai besoin, mais c'est d'être aussi capable d'exprimer mes limites. Comment on dit oui, comment on dit non, comment on a le droit aussi de changer d'idée, d'opinion, parce qu'à un moment donné, la situation devient quelque chose d'autre que je n'avais pas, auquel je n'avais pas pensé.
Oui.
C'est évident que pour tout adulte, parler de sexualité avec nos enfants, ben c'est pas nécessairement facile. Et je pense qu'un truc, c'est de dire, moi, j'observe des choses qui m'inquiètent, j'ai vu des choses qui m'inquiètent, j'aimerais ça qu'on en parle. C'est peut-être pas actuellement le bon moment, mais j'aimerais ça qu'on le fasse dès que tu vas être disponible. Donc, de laisser cet espace où le jeune va dire, ben effectivement, il faudrait que j'en parle. Et de ne pas avoir peur de dire, comme grand frère, comme oncle, comme voisin, comme grand-parent, comme parent, comme entraîneur, de dire, depuis un certain temps, je t'observe, j'observe des changements que je ne comprends pas, ça m'inquiète, j'aimerais savoir, et si jamais tu as besoin d'aide, ben je suis là. Donc, cette ouverture-là, et c'est pas parce que tu as peut-être fait une gaffe que je vais te juger ou que je vais que tu vas perdre mon affection ou mon amour.
Quels sont-ils ces signaux-là inquiétants, Alain Johnson?
Moi, je vous dirais, comme parents, on a tous un sixième sens. On l'a probablement jamais prouvé scientifiquement, mais on le vit. Dans le fond, un jeune dont le comportement va changer sans qu'on comprenne. Donc, un jeune va s'isoler. Un jeune va abandonner, par exemple, ses passions. Un jeune va commencer à avoir des activités qu'on ne connaît pas. Un jeune qu'on ne reconnaît pas. Et c'est peut-être juste un jeune qui vit un passage difficile, c'est peut-être juste un jeune qui est un peu déprimé, mais devant ces changements-là, et on peut dire, telle journée, avant tu faisais telle chose, tu le fais plus. Avant, tu étais souriant, tu chantonnais, tu étais toujours de bonne humeur. Maintenant, tu es de plus en plus isolé, refermé sur toi. Ça m'inquiète, c'est peut-être pas grave, mais j'aimerais ça comprendre et qu'on en parle. Donc, de ne pas se gêner, parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, ça peut être même un collègue au travail, j'ai observé un changement, ça veut dire que tu es suffisamment important pour moi pour que j'observe, je note ce changement-là. Donc, tu as une valeur, tu existes pour moi. Et parce que ça m'inquiète, j'aimerais qu'on en parle puis qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe et possiblement t'aider aux besoins.
On a beaucoup parlé des adolescents, Alain, mais il y a ces parents qui ont également besoin de ressources psychologiques, soit parce qu'ils sont très inquiets des changements de comportement de leur ado ou encore parce qu'ils ont vécu une fugue, au retour de l'enfant ou pendant l'attente du retour. Oui. Ces parents-là ont besoin d'encadrement.
Et je pense qu'on peut tous, je suis pas sûr qu'on peut imaginer, mais on peut se douter du drame et de l'enfer que ces gens-là vivent. C'est évident que les jeunes, pour les jeunes, il y a quand même un certain nombre de ressources qui existent, des ressources officielles, que ce soit dans, par exemple, en milieu scolaire, au CLSC. Il y a évidemment Jeunesse J'écoute pour les jeunes qui veulent faire cette première démarche-là de façon confidentielle et anonyme. Malheureusement, pour les adultes, il y a peut-être moins de ressources, mais je pense que, comme parents, il faut rapidement aller chercher de l'aide, de ne pas se sentir honteux, de ne pas avoir l'impression qu'on n'a pas fait une bonne job de parent. Il faut demander de l'aide. Je pense qu'une ressource, c'est d'appeler notre médecin, d'appeler le CLSC s'il y a des ressources. Les gens qui ont la chance au travail d'avoir des programmes d'aide aux employés, c'est une possibilité. Les gens qui voudraient parler, par exemple, à un psychologue, on peut aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Sur le site Internet, on peut trouver des psychologues dans notre région. Les gens qui ne savent pas quoi faire, qui sont démunis, je pense qu'il ne faut pas se gêner pour contacter les policiers de notre quartier. Dans le fond, je pense que le message aux parents, c'est cette détresse-là qu'on vit, avec toutes sortes d'émotions hein, qui vont de la part de l'inquiétude, mais peut-être aussi la honte, le désarroi. Je pense que il faut prendre soin de nous-mêmes. Est-ce que dans notre entourage, on a d'autres adultes, d'autres parents qui pourraient devenir, dans le fond, une oreille pour nous écouter? Parce que des fois, ce dont on a besoin, quand on est dans l'attente, c'est tout simplement quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter. Donc, c'est important donc de ne pas vivre ces situations-là ou ces inquiétudes-là en secret et en silence.
Bien sûr, Alain, on invitera les gens à vous joindre du côté oui. de Jeunesse J'écoute. Oui. Est-ce que l'organisme a eu envie de se positionner? Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer aux gens qui nous écoutent?
Moi, je vous dirais, ce que les parents peuvent faire, mais c'est évident que Jeunesse J'écoute s'adresse aux jeunes, mais les parents qui disent, je ne sais pas trop comment parler de certains sujets, un conseil qu'on peut faire, c'est de suggérer aux parents d'aller sur le site de Jeunesse J'écoute et d'aller lire, dans le fond, ce que nous, on dit aux jeunes. Ouais. Parce que des fois, ça peut nous donner le bon vocabulaire pour le faire après ça avec nos propres enfants. Le message de Jeunesse J'écoute, c'est dès qu'il y a une situation dans laquelle on n'est pas confortable, dès qu'il y a une situation qui nous inquiète, dès qu'il y a une situation où on se sent impuissant, la première chose à faire, c'est d'en parler à des adultes significatifs autour de nous. Et si ce premier pas-là est trop difficile, évidemment, il y a toujours Jeunesse J'écoute, qui est confidentiel, anonyme, gratuit, oui. en français et en anglais, 24 heures par jour.
Vous nous en avez parlé aujourd'hui, Alain Johnson. Merci beaucoup, directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute. Toujours un plaisir.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir.